Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Le 12 décembre dernier a eu lieu le vernissage des prix Pierre Cardin Académie des Beaux-Arts à la galerie Évolution, nouveau lieu dédié par Pierre Cardin à la création contemporaine. Dans ce nouvel espace, des œuvres des lauréats des prix Pierre Cardin depuis 1993 étaient présentées. Véritable événement puisqu'il s'agissait de la première rétrospective des prix Cardin depuis la création de ces distinctions. Cette exposition regroupait l'ensemble des artistes plasticiens récompensés par les différentes sections de l'Académie des Beaux-Arts, la sculpture, la peinture, la gravure, l'architecture et la composition musicale. 33 lauréats parmi les 70 récompensés depuis 1993 ont eu l'honneur d'exposer 3 œuvres chacun. Écoutez s'exprimer quelques-uns de ces artistes au hasard des rencontres lors du vernissage avec la rédaction de Canal Académie. Gérard Talmant, peintre, récompensé en 2000, Bénédicte de Volmerange, récompensé pour ses sculptures en 2005, Johann Roffler, récompensé lui aussi pour ses sculptures en 2002, Patrick Burgan, récompensé en 1995 en composition musicale, et retrouvons immédiatement le peintre Dominique Dijon, récompensé l'année de la création des prix Pierre Cardin en 1995. Dominique Dijon, vous avez été un des premiers lauréats de la section peinture des prix Pierre Cardin en 1993. Et aujourd'hui, c'est la rétrospective des 14 ans des prix Pierre Cardin, où tous les lauréats peuvent exposer quelques pièces. Alors, entre 1993 et aujourd'hui, vous avez choisi d'exposer 3 pièces. Vous pouvez nous les décrire ?
Bien, oui, c'est 3 tondos, c'est-à-dire des pièces rondes de 1 mètre sur 1 mètre. Les tondos suivent une grande série de toiles carrées. Et c'est un format que j'apprécie sur lequel je travaille depuis pas mal de temps quand même.
En 93,
c'était encore que. C'était des toiles rectangulaires, mais ça tournait. Ouais. Donc, à force de se cogner sur les bords, j'étais dans les carrés, et du carré, je suis passé au cercle.
Au cercle. Voilà.
Donc, ces 3 tondos, en fait, pour ces 3 pièces-là, c'est des citations, c'est-à-dire qu'elles reprennent certaines œuvres anciennes. Ouais. Et elles sont traitées avec ce que j'appelle la technique du papier pelé, plus la caséine qui me sert de colle. Et de liant pour le pigment.
Alors, approchons-nous de la première. Voilà. Jeune dessinateur taillant sur le crayon 1737, citation de Jean-Siméon Chardin. Et c'est un tableau qui est au Louvre.
C'est un tableau qui est au Louvre. Et j'ai repris cette image pour en faire une nouvelle version, un peu comme... Picasso qui reprend les Mélines de Velázquez, comme Bacon qui reprend aussi le pape de Velázquez. Et il y a tout comme ça, toute une histoire quand même dans la peinture. On fait toujours des nouveautés, mais on a aussi toujours des images qui reviennent, qui résistent.
Y a-t-il du relief sur vos collages ?
Il n'y a plus de relief parce que tout est parti. Enfin, il y a eu beaucoup de relief, puisque c'est une accumulation de relief, de papier, découpé, collé, peint. Et puis ensuite... ce que j'appelle peler, c'est-à-dire enlever la peau couche par couche pour récupérer le papier qui est dessous et donc permettre des séparations des traits, des limites extrêmement fines qu'on aurait peut-être un peu du mal à obtenir avec un crayon ou un pinceau. Donc il y a toute la partie qui est en papier pelé qui est vraiment rasée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même des trous qui apparaissent dans la toile.
On les voit, oui.
Oui, les trous sont pas faits exprès, mais quand ils existent, mm-hmm. Ils existent. Je ne les fais pas, c'est dû à la technique en fait du pelage. Et puis, pour cerner les formes, c'est des empattements de caséine grattés.
D'accord. Et là, c'est la peinture.
Peinture un peu plus classique, avec une accumulation de ce que j'appelle des tirets, c'est-à-dire des coups de pinceau donnés un peu dans l'arrondi.
En ce moment, vous travaillez sur ce principe-là ?
En ce moment, je travaille...
ce sont déjà des œuvres plus anciennes.
J'ai toujours cette technique de papier pelé. Mm-hmm. En fait, d'année en année, j'ai tous les ans des techniques nouvelles qui apparaissent. La dernière pièce que j'ai faite, c'est une pièce de 6 mètres sur 2 qui reprend tout un ensemble de plusieurs techniques. À côté des thématiques comme ça, de citations, je travaille aussi beaucoup sur le thème du jeu d'échecs depuis 1991.
J'ai vu ça en fait sur votre site.
Et le jeu d'échecs me sert de fil d'Ariane un petit peu pour expérimenter les techniques que je trouve au fur et à mesure, des techniques vraiment plastiques, hein, des techniques dans la pâte. Hein. Et qui sont après réemployés, réutilisés, réinvestis dans des séries sur des thématiques différentes, mais qui sont quand même à peu près sur une année ou deux. Comme ça, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pièces par série.
Et comment choisissez-vous les tableaux qui vous inspirent là,
pour les citations ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est l'image. Il y a toujours quand même une idée de transparence, parce qu'en fait, bon, mine de rien, depuis quand même toutes ces séries qui se succèdent avec des techniques différentes, il y a quand même toujours une recherche sur la transparence. Donc forcément, ces images ont quelque chose à voir aussi avec la transparence. Alors évidemment, ça c'est des citations à l'huile. L'huile, c'est la technique de la transparence par excellence, puisque c'est la lumière qui traverse la couche d'huile qui va toucher, si on met du glacis, qui va toucher le fond coloré, qui va revenir et qui donne l'effet de transparence. Donc dans le visuel ou dans l'idée, dans le conceptuel, de ces pièces choisies, il y a une idée de transparence quand même. Là, c'est une dame, c'est la femme en bleu. Donc, pareil, elle a une très, très grande jupe bleue qui est très vaporeuse comme ça. Et pour ce qui est du Minotaure, c'est une citation un peu plus ancienne, mais là, c'est un autre problème. C'est le problème des inversions du fond et de la forme entre la série des céramiques attiques grecques à figure rouge sur fond noir et inversement. Donc il y a toujours, là c'est plutôt l'idée de l'incision, puisque pour obtenir le dessin, souvent ils incisaient sur la peinture déposée auparavant, d'accord, pour retrouver le fond.
Je réutilise des techniques
aussi anciennes. Donc ça c'est pour ces pièces-là, mais à chaque série il y a des intuitions différentes au fur et à mesure.
Et qu'a représenté pour vous le prix Pierre Cardin en 93? Ça a été un coup de pouce, une reconnaissance?
Déjà, ça a été une petite somme d'argent, ce qui n'était pas négligeable. Et puis ensuite, oui, pour moi, personnellement, moi je suis en galerie quand même depuis très longtemps. J'étais même en galerie un peu avant. C'est plutôt au niveau de moi-même que ça m'a rassuré, si on peut dire. Voilà. Sinon, dans ce qui est de... Si on parle bassement matériel du commerce, j'ai continué dans ma galerie où je suis, chez Alaoudin, depuis 20 ans maintenant, depuis 1987. Donc on fêtera nos 20e collaborations fidèles depuis 20 ans. Et le prix Cardin, oui, c'est aussi quelque chose qui me permet de mettre sur mon CV de façon régulière, bien sûr. Bien sûr.
En tout cas, c'est très beau.
J'espère.
Précis, voilà. Beaucoup.
C'est déjà beau.
Ouais. Ça donne envie de voir davantage.
Il y a le site aussi, ouais, vous avez, et puis il y a plein de choses dessus. Moi, je peins depuis, je suis petit comme ça, alors évidemment, depuis, il y a beaucoup de choses. Et comme on produit plus que l'on vend, forcément, on en a beaucoup.
Écoutez, merci pour de nous avoir accordé de ce temps. Après Dominique Dijon, retrouvons un autre lauréat des prix Pierre Cardin récompensé en peinture en 2000, Gérard Talman, qui est un personnage enjoué. Gérard Talman, vous avez reçu le prix Pierre Cardin en 2000.
À cheval sur deux siècles.
Pour la section peinture.
Oui.
Et aujourd'hui, trois de vos œuvres sont exposées. Est-ce que vous pourriez les décrire ?
Les décrire, je pense que c'est pas... Ça serait pas mon rôle de les décrire, mais ce que je peux dire, c'est que d'abord j'ai reçu ce prix en peinture, et là il s'agit d'œuvres numériques et de jets d'encre, mais qui sont pour moi une façon de continuer la peinture par d'autres moyens, pour montrer que la peinture ne s'arrête pas aux gestes du pinceau et aux gestes de la main sur la toile, mais aux gestes de la main et à l'œil, et que la peinture reste avant tout une cosa mentale, telle que la décrivait Leonardo da Vinci, qui aurait été fier de présider l'Académie française s'il n'avait pas été italien.
Alors, comment procédez-vous ?
Exactement comme je fais des peintures. C'est-à-dire que je détermine le format, Préalablement, comme je peux choisir une toile qui fait 50 par 70 cm ou 100 par 120, et à partir de là, c'est un travail de montage. Comme je le fais avec des... Si ce n'est qu'au lieu de reproduire les choses et de faire du collage avec de la colle, je fais du collage sans colle, du photomontage sans colle, en utilisant toute ma cueillette, c'est-à-dire ma cueillette, ce sont les documents que je note dans des carnets, des photographies, c'est-à-dire que là, il y a une ouverture vers la photographie, enfin, qui n'est pas nouvelle dans mon travail, parce que j'avais déjà fait en 1980 un ouvrage qui s'appelait « À la peinture », préfacé par Eduardo Arroyo, et qui était des tableaux qui n'avaient duré que le temps d'un instant sur les vitres de mon atelier et qui avaient été photographiés et reproduits en Polaroid. Parce que moi, je n'oppose pas les techniques et les choses. Pour moi, être peintre, c'est une attitude. C'est avant tout une attitude. C'est celle qui consiste à prendre en charge le pigment, qui est cette origine commune à tous les peintres. Et ça m'étonne toujours qu'avec ces pigments de base qui sont les couleurs, le jaune, le bleu, le rouge, qu'on arrive à faire autant de choses différentes. Alors là, aujourd'hui, il s'agit de pigments numériques, mais ce sont tout de même des pigments. Et c'est tout de même la main, ma pensée, qui font ces œuvres. Mais j'ai l'impression d'aller beaucoup plus loin avec ce processus que je n'allais auparavant. Quitte à retourner, je fais un va-et-vient entre la peinture et même je fais des films, je fais toutes sortes de choses. Pour moi, un artiste, c'est celui qui va à travers la passion de la peinture, ce qui est ma passion, ce qui est ma vie, depuis que je l'ai rencontré, à travers Carpaccio, à travers le Tintoret, à travers Van Gogh et ensuite Francis Bacon, c'est d'aller le plus loin possible vers ma sensibilité, mon émotivité, mon émotion et mon imaginaire surtout.
Quelles sont les sensations que vous préférez restituer en ce moment ou dernièrement ?
Les sensations que je préfère restituer, c'est la vérité de mon rapport au monde.
Vous voyagez beaucoup ?
Je voyage beaucoup, ben là, je pense que ça peut se voir parce que là ça vient de New York, c'est un hommage à Dylan Thomas où il est mort dans la White Horse Tavern, ça traite du Mexique et ça c'est un nu que j'ai fait au Gramercy Park Hotel à New York. Mais quand je ne voyage pas, je voyage dans mon travail, c'est-à-dire que c'est un va-et-vient, d'abord il faut le voyage, il faut l'extérieur et en plus si je ne voyage pas dans mon travail, si je ne me surprends pas moi-même, ça n'a aucun intérêt.
C'est pour ça que je vous posais cette question, c'est parce que...
Ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis juste le premier regardeur, c'est-à-dire que celui qui voit juste avant vous, puisque vous découvrez visiblement mon travail. Et donc, c'est à vous aussi de l'interpréter, de voir ses possibilités. Et à mon avis, plus un travail est riche, plus il a d'interprétations possibles, plus son chemin sera long.
Merci de nous avoir accordé du temps.
Écoutons maintenant Bénédicte de Volmorange, récompensé en 2005 pour ses sculptures.
Bénédicte de Volmorange, vous avez reçu le prix de sculpture Pierre Cardin en 2005. Ce soir, vous exposez trois de vos œuvres. Entre 2005 et... on est juste un an plus tard. J'imagine que c'est pour le même type de travail que vous aviez été récompensé en 2005. Est-ce que vous pouvez décrire ou expliquer ce qui fait la caractéristique de vos sculptures ?
J'essaye de travailler sur la construction et dans la plénitude de la forme.
Donc là, sont exposées trois pièces qui sont pas très grandes, en fait, qui sont comme des cubes un peu emboîtés, en même temps qui sont un peu gonflés. J'essaie de les décrire pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à l'intérieur, ça vit un peu quand même. Hein. Alors, vous pouvez nous décrire un peu le matériau sur lequel vous avez travaillé, comment vous avez travaillé ?
En fait, j'aborde la sculpture et je la conçois en fonction de sa forme initiale. J'attends un moment, je tourne autour et à partir d'un moment, commencent à se dessiner des lignes et les formes intérieures qui vont ensuite se dessiner à l'extérieur. Et je conçois l'ensemble à partir de ce point de départ. Et j'essaye de trouver ensuite l'équilibre et dans certaines la plénitude et dans d'autres il y a une sorte de... On peut moins parler de plénitude, c'est dans la mesure où elle est plus fine aussi, c'est une espèce de mise en valeur de cette forme initiale.
Qu'est-ce que c'est comme matériau? C'est du marbre? C'est...
Alors, je travaille sur des pierres calcaires, marbrières et des marbres. J'ai également travaillé le bois et le granit avant, par ailleurs. Maintenant, je m'intéresse beaucoup à la peau de la sculpture, ce qui m'a amené à des pierres plus fines et en accord avec la structure, la construction et ce qui se dégageait du matériau aussi. Hein,
sur la surface du matériau ?
Oui, la peau du matériau. J'essaye de vraiment mettre en accord la qualité de la pierre avec sa forme.
Elles sont polies, elles sont... Qu'est-ce que vous leur faites ?
Oui, j'approche de la finition qui me semble leur mieux leur correspondre et les valoriser. Alors certaines sont polies, d'autres sont elles sont plus ou moins polies ou plus ou moins selon leur structure en fait, leur structure interne.
Depuis quand vous travaillez la sculpture ?
Je travaille la sculpture alors sur pierre depuis maintenant une douzaine d'années hein, à peu près. Et j'ai approché la sculpture par la terre, le modelage, le moulage depuis une vingtaine d'années, on va dire. Hein.
Alors le prix Pierre Cardin, c'est une reconnaissance pour vous en... en 2005 ?
Oui, tout à fait. Oui, ça a été pour moi une étape importante pour la reconnaissance et pour le parcours. C'était vraiment quelque chose qui a marqué un départ.
Et en ce moment, quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez un projet de sculpture qui vous tient à cœur particulièrement ?
Pour l'instant, je n'ai pas de projet... définie. Je continue à travailler dans la même démarche, toujours en rapport avec la pierre. Donc je choisis mes pierres et ensuite le projet vient avec la pierre. Et j'ai aussi quand même parfois des projets pour lesquels je choisis le matériau adapté.
Je vous remercie.
Je vous remercie aussi. Au revoir.
Après Bénédicte de Volmerange, retrouvons un autre sculpteur, Johann Roffler, récompensé en 2005 du prix Pierre Cardin Sculpture.
Johann Roffler, vous avez reçu le prix Sculpture Pierre Cardin en 2002, il y a quelques années, et aujourd'hui c'est la grande rétrospective de tous les lauréats des prix Cardin depuis 1993. Alors, vous avez eu le prix pour vos sculptures, il y a 3 pièces aujourd'hui exposées. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre travail et nous l'expliquer ?
Oui, alors j'ai eu le prix Pierre Cardin en 2002, effectivement, sur un travail qui était très axé sur la pierre. Pendant 15 ans, j'ai essentiellement travaillé donc le granit, le marbre, et puis j'ai fait des rapports de matériaux aussi avec du bois. J'ai toujours été à la recherche d'une certaine intériorité de ma sculpture. Il m'a semblé important dans la sculpture qu'elle irradie, qu'on soit un peu happé par son dégagement. Aujourd'hui, depuis 2 ans, je me suis orienté sur un travail un peu différent puisque à la pierre, j'ai rajouté le bois et surtout des parties en résine. Donc c'est des sculptures plus complexes, faites d'assemblages de différents matériaux, notamment aussi des fibres textiles, notamment de la fourrure synthétique. Et c'est toujours la même idée qui m'obsède dans mon travail, c'est-à-dire à la fois l'intériorité et le dégagement. Il faut qu'on ait une certaine distance avec la sculpture, faut qu'elle irradie et en même temps, il faut qu'on soit attiré par elle. Alors, dans les 2 dernières pièces qui sont présentes dans le lieu actuellement, l'une s'appelle Évanescente et puis l'autre s'appelle À travers soi. Évanescente, c'est une réflexion un peu sur la femme ou le rapport de l'homme avec la femme, comment il peut la voir, c'est-à-dire en même temps, souvent sa force, sa grande force et en même temps sa fragilité intérieure, sa douceur. L'autre sculpture, À travers soi, c'est une réflexion plus personnelle sur quelle partie de soi est l'homme et quelle partie de soi est la femme. Et comment est-ce qu'à certains moments donnés dans la vie, on est homme ou on est femme, tout en étant soi-même homme ou femme. Et voilà, c'est un travail de réflexion à travers soi, donc avec une partie transparente qui nous fait passer d'un côté à l'autre de la sculpture et qui nous fait jouer donc entre... cette partie qu'on a chacun à l'intérieur de soi.
cas, nous, c'est ce qui nous a séduit, c'était justement ce mélange des matériaux différents. Comme ça, la pierre, sur moi, c'est tout de suite ce qui a attiré mon regard.
Je vous propose d'écouter maintenant un extrait musical d'une œuvre de Régis Campeau qui reçut en 1999 le prix Pierre Cardin composition musicale et qui, le soir du vernissage, s'était également adressé au public en relatant son expérience de résidence à la Casa Velázquez et en faisant entendre une de ses œuvres interprétée par Dame Felicity Lott. Alors, écoutons cet extrait. Retrouvons maintenant un musicien venu s'exprimer sur son travail, Patrick Burgand, récompensé en 1995 pour le prix Pierre Cardin, composition musicale. Patrick Burgand, vous avez reçu le prix de composition musicale Pierre Cardin en 1995. Aujourd'hui, c'est la rétrospective des prix Pierre Cardin depuis 14 ans. Et vous êtes donc un représentant de la composition musicale. Alors, il n'y a pas eu de concert aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre musique, votre travail, en quoi consistent vos compositions, et puis on essaiera de les faire entendre aux auditeurs de Canal Academy.
Écoutez, le prix Pierre Cardin, je me souviens, m'a été attribué alors que je revenais de la Casa de Velázquez. J'ai été pensionnaire à la Casa de Velázquez entre 1992 et 1994. J'ai eu la chance d'ailleurs d'y aller après les études que j'ai faites au Conservatoire de Paris. Et c'est vrai que les deux ans passés là-bas m'ont donné la bienheureuse sensation d'être payé pour écrire de la musique, ce qui est quand même assez rare. Et donc je me suis promis là-bas d'essayer de faire en sorte de résister et d'essayer de ne vivre que de ma musique. Donc c'est assez délicat et difficile. Et c'est vrai que l'action de mécène de l'Académie des Beaux-Arts compte beaucoup, parce que justement elle aide à joindre les deux bouts, on dirait, puisque les droits d'auteur, les commandes ne suffisent pas toujours. Alors quand vous avez un prix Cardin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien, donc c'est quand même capital. Et c'est vrai qu'ensuite mes œuvres, j'ai eu la chance d'être suivi par les interprètes, que les œuvres soient régulièrement jouées. Donc, j'ai pu faire ce que je souhaitais, c'est-à-dire arriver à vivre de ma musique et finalement faire que cette musique soit jouée un peu partout, tout le temps, diffusée, etc. Et là, je viens de vivre cette année, justement. C'est l'année de cette fameuse rétrospective, pour moi, est une année exceptionnelle, puisque mon opéra Peter Pan a été créé. Vous avez entendu parler de Peter Pan ? Voilà, c'est moi qui l'ai composé. Et mon opéra a été créé au Théâtre du Châtelet en mai-juin 2006. Donc, pour un compositeur, un opéra une grande forme, je veux dire, hein, des chœurs, orchestres, solistes, etc. Enfin, un opéra de deux heures, sans entracte, donc vraiment, avec des solistes exceptionnels. Il y avait même Marie-Christine Barrault qui jouait, puisqu'il y a un rôle parlé, puisque Wendy, âgée maintenant, raconte toute son histoire à sa petite fille, etc. Et on revit tout ce qu'elle a vécu. Elle-même de son côté, évidemment, je suis pour cet opéra retourné aux sources du conte originel, puisqu'on connaît surtout Peter Pan de Walt Disney, mais il ne faut pas oublier le conte originel de James Berry qui est une véritable mise en abîme existentielle et métaphysique, hein. Ça n'empêche pas que l'opéra puisse être appréhendé par des enfants, mais c'est un opéra pas seulement pour enfants, c'est un opéra pour adultes, enfin pour tout type de public. Il y a des bagarres dans l'opéra, mais il y a aussi une réflexion très, 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 très lourde justement sur le réel, l'imaginaire, le virtuel, l'existence, la mort, la vie. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où est le réel, la réalité. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui est fondamental dans l'art, dans la musique en particulier, puisque c'est le domaine qui me touche, c'est qu'on touche à des frontières où on ne sait plus où est le réel et l'imaginaire, en fait. Et les deux, la porte est étroite entre les deux mondes. C'est une porte qui sépare l'imaginaire de la réalité, mais c'est une porte qui sépare peut-être aussi la vie de la mort. Et c'est un thème qui me préoccupe. J'ai écrit beaucoup d'œuvres justement sur ce thème. J'ai d'ailleurs écrit une pièce quand j'étais à la Casa de Velázquez qui s'appelle La Puerta de la Luz, la porte de la lumière. Et c'est justement cette porte entre la vie et la mort. On ne sait pas de quel côté est la lumière, en fait, et la vérité. Et voilà, dans l'opéra Peter Pan, c'était ça. C'est un thème qui me tient à cœur. Et je pense que l'art, dans l'écriture, évidemment, la peinture, certainement, mais la musique, puisque je connais ça, est à même de nous laisser entrevoir cette frontière fragile, justement, entre les deux univers. C'était mon deuxième opéra. J'ai écrit un opéra avant. Ma musique est quand même assez fondamentalement théâtrale, on dira. Même si les œuvres, ce sont des œuvres de concert, j'ai une conception assez dramaturgique de la musique. Donc, il se raconte toujours des histoires. Donc, c'est pour ça que j'écris énormément de musique vocale, des musiques sur des textes de grands poètes, de poètes contemporains. Mais
qui, par exemple ?
Comme grand poète ? Ouh, c'est la liste. En partant des plus connus, on va dire Shakespeare, Dante, Lamartine, Verlaine, Rimbaud.
Des poètes contemporains, pardon.
Philippe Jacotet, Paul Éluard. Enfin, ils sont plus. Si Philippe Jacotet vit encore, mais ce sont des poètes du XXe siècle, on va dire. Bon, il y en a plusieurs. Et puis il y a le poète indien aussi, Tagore, Rabindranath Tagore. Je viens d'oublier, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Marc Blanchet, qui est un très talentueux poète jeune, lui. Qui doit avoir la quarantaine à peu près. Marc Blanchet, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de musique sur des textes de Marc Blanchet parce que c'est vraiment un poète. Bon, Philippe Jacotet, Paul Éluard, on les connaît bien, ils sont dans le répertoire, on va dire. Marc Blanchet n'est pas encore connu à la juste mesure de son talent, mais ça viendra. J'espère avant sa mort. Voilà, et beaucoup de textes. Mais j'ai écrit aussi évidemment des musiques d'orchestre, des musiques de chambre, enfin pour toute formation. Mais j'avoue que le travail sur le texte me touche parce qu'on a un domaine aussi, on a une matière préalable, si vous voulez, qui est un texte déterminé et dont on essaye de tirer un peu la substantifique moelle, c'est-à-dire on essaye de prendre à l'intérieur de ce texte ce qui est le non-dit, en fait, et ce qui est derrière lui, et par la musique, justement, d'essayer d'exprimer ce qui est derrière les mots.
Et il y a des thèmes particuliers dans ces histoires ou dans ces poèmes qui vous touchent ou qui sont récurrents pour vous ?
Oui, c'est vrai. Il y a des thèmes récurrents. Comment dire l'enfance, déjà. Vous voyez bien l'opéra Peter Pan, la Puerta de la Luz dont je vous parlais, la Porte de la Lumière, ça met en jeu sans arrêt des enfants, un enfant. Enfin, c'est normal parce que l'enfance est très près de la mort dans un sens où je parle de la mort qui précède la vie, si vous voulez, voyez. Voilà. Donc elle est assez près d'un certain côté et la toute première enfance. J'ai des enfants, j'ai quatre fils, donc j'ai eu l'occasion, en les voyant, en les tenant dans mes bras tout jeunes, et en regardant leurs yeux à quelques jours de leur naissance, de tout d'un coup voir quelque chose dans ses yeux qui nous parlait d'ailleurs, quoi, de là d'où ils venaient. Parce qu'on a toujours peur, on pense à l'au-delà d'après, mais on ne pense pas à celui d'avant, et à mon avis, il est aussi important que celui-là. Donc parmi ces termes récurrents, c'est surtout ça, quoi, c'est-à-dire la frontière entre ce que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas. Et alors on peut donner tous les noms, la vie, la mort, le réel, l'imaginaire, et puis évidemment l'enfance. Puis la sensualité en général, c'est vrai que le rapport de la lumière aussi, la lumière. C'est vrai, j'utilise beaucoup. Mais ça, je vous dis ça parce que c'est des choses qu'on m'a dites aussi. Parce qu'il y a une musicologue qui travaille un petit peu sur mon œuvre, parce qu'elle va faire un livre dans l'année prochaine. Et c'est elle aussi, parce que vous savez, on ne se rend pas vraiment compte en tant que compositeur. C'est des thèmes, parce qu'on les choisit malgré soi, quoi, hein, et en fait, on ne fait pas un véritable travail d'analyse sur sa propre musique. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un d'extérieur regarde votre œuvre et l'analyse et vous en parle, comme cette musicologue, Sylviane Falsinelli, ben finalement, on découvre des choses, on s'aperçoit que tout est assez cohérent, finalement, et que tout se rejoint. Et en même temps, c'est réconfortant, quoi, de voir qu'on suit une ligne en ayant toujours l'impression de faire des choses diverses. C'est une montagne qui se construit petit à petit.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel morceau choisiriez-vous pour qu'on puisse le faire découvrir ?
Pièce de la Puerta de la Luz dont je vous parlais, qui est aussi quelque chose qui me tient très à cœur, que j'ai écrite justement un an avant d'avoir le prix Cardin. C'est peut-être plus facile parce qu'un opéra, c'est quand même très long. Alors un extrait n'est pas toujours très parlant, si vous voulez. Voilà. Alors qu'un extrait de la Puerta de la Luz, voilà, c'est des pièces qui durent 4-5 minutes, c'est peut-être beaucoup plus commode, quoi. Un opéra, quand c'est sorti du contexte, c'est parfois un peu délicat, surtout que c'est un opéra d'un seul tenant, si vous voulez, sans entracte. Donc on peut difficilement couper et comprendre ce qui se passe. C'est plus difficile. Il vaut mieux prendre une pièce qui se tienne. Par exemple, la fin de la Puerta de la Luz, il y a une pièce qui s'appelle « La petite chanson de l'enfant qui n'est pas né ».
Voilà, ça correspond parfaitement à ce que vous venez de nous dire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire ce qui se passe avant la vie, en fait, avant la conception.
Alors écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous écouter.
Grâce à la magie du montage, écoutons maintenant la Puerta de la Luz de Patrick Burgan. Après la Puerta de la Luz de Patrick Burgan que nous venons d'entendre, retrouvons Stéphanie Delouvrier récompensée en 2001 pour ses gravures. Stéphanie Delouvrier, vous avez reçu le prix gravure Pierre Cardin en 2001 et vous exposez trois gravures. Truc de pissenlit, c'est le nom d'une de vos œuvres. Vous pouvez nous décrire un peu cette...
Oui, mais en fait, il s'agit d'un travail que j'ai réalisé sur les pissenlits au burin et qui consistait à pendre un pissenlit par la racine et à laisser s'échapper les trucs de pissenlit dans l'espace. Donc en fait, ça résume un petit peu mon travail qui consiste beaucoup à travailler sur l'espace, le rapport entre les vides et les pleins, et puis la trace, l'empreinte, le trait dans la gravure.
Et sur Tempête, qui était l'autre œuvre qui jouxte celle-ci?
Alors en fait, il s'agit d'une gravure que j'ai réalisée dans le cadre d'une exposition que j'ai faite au musée Goya, en collaboration avec la Casa de Velázquez, qui est le lieu de résidence des boursiers de l'Institut, où j'ai été pendant 2 ans. Et c'était un travail sur le ciel, voilà, qui retraçait une tempête de ciel en eau forte.
Qui est très, très différente.
Au niveau technique, il s'agit d'un mélange d'eau forte et d'aquatinte. C'est-à-dire que c'est un travail à l'acide sur le métal. Donc je dessine sur le métal, sur un vernis. Et c'est ce qui va être mordu par l'acide qui va apparaître à l'impression. Et il y a également quelques aquatintes, c'est-à-dire des résines qui donnent une matière au travail. Et comme il s'agit d'une tempête, il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup de balayements, de gestes sur la plaque de métal, ce qui fait que voilà, c'est un travail que j'avais aussi réalisé en mémoire à certaines peintures de Turner que je n'ai pas regardées particulièrement, mais voilà, ça fait partie des choses qui font partie de la mémoire collective et qui reviennent dans le travail.
Alors, toujours dans le ciel, vous avez aussi exposé Nuages.
Voilà. Alors, Nuages, je l'ai exposé pour des raisons plus anecdotiques, parce qu'en fait, je réalise aussi des objets dans lesquels j'intègre des images gravées. Et j'ai en fait découpé des petites languettes de gravure, de cubes que j'avais réalisées pour une exposition et que j'ai recomposées sur l'image. Donc en fait, je ne pouvais présenter que des images en 2 dimensions et j'ai un petit peu joué sur ma double fonction. Voilà.
Ce sont 3 œuvres complètement différentes d'ailleurs. C'est ce qui est séduisant dans votre travail. C'est très très différent et c'est ce qui nous a plu.
Vous venez d'entendre Dominique Dijon, Gérard Talmant, Bénédicte de Volmerange, Johan Roffler, Régis Campo, Patrick Burgan, Stéphanie Delouvrier, tous lauréats des prix Pierre Cardin, qui ont eu l'honneur de présenter quelques-unes de leurs œuvres lors de la première rétrospective des prix Pierre Cardin, Académie des Beaux-Arts, organisée à la Galerie Évolution le 12 décembre dernier.